Bien, tout le monde est installé. Nous allons commencer, si vous voulez bien. Bonsoir, donc je suis Françoise Leblanc, proviseur de cet établissement, si par hasard vous ne me connaissez pas encore. J'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir pour la première conférence de notre cycle 2010-2011, Monsieur Stéphane Lochkine, professeur à l'Université de Provence, dont Madame Dorosu, qui est le maître d'ouvrage et maître d'œuvre de ce cycle de conférences, vous parlera un petit peu tout à l'heure. Pour ce qui me concerne, juste un mot pour les étudiants de classe préparatoire qui viennent d'autres établissements. Un petit mot très gentil, parce que je suis vraiment très heureuse de voir un public mixte, moi qui ne vois que des jeunes filles, mais ça n'est pas du tout péjoratif, du matin au soir. Donc, parlez-en à vos camarades dans vos établissements, c'est bien que vous veniez d'autres établissements de Paris et d'Île-de-France. Donc, soyez particulièrement les bienvenus et faites venir vos camarades, nous avons 230 places, donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Merci en tout cas d'être venus nombreux ce soir. Merci à Monsieur Lochkine d'avoir eu la grande gentillesse d'ouvrir ce cycle de conférences.
Bon, je ne ferai que reprendre très très brièvement ce qu'a dit Madame Leblanc, la remercier d'abord elle, d'ouvrir les portes de l'établissement à des étudiants extérieurs, à des collègues qui nous font la gentillesse d'être présents parmi nous, et puis donc de permettre que ce cycle de conférences rapproche des universitaires qui nous sont très précieux dans notre travail, des professeurs de Cagnes et des élèves de différents lycées qui peut-être se rencontrent aussi à cette occasion. Je remercie aussi mes complices, en particulier Brigitte Pierra et puis Claude Castin, pour leur aide précieuse pour l'établissement de ces conférences. Je suis particulièrement heureuse d'accueillir ici Stéphane Lochkine ce soir, que j'ai connu il y a bien longtemps et qui est professeur à l'Université de Provence, dont je pense que les travaux, les préoccupations cernent de très près notre programme cette année, et en particulier la question centrale de la représentation. Ceux qui, d'entre nous, ont été des tâcherons depuis longtemps, ont eu l'occasion de travailler lorsque nous avions Diderot au programme, en particulier sur sa base de données, sur la base de données qu'il dirige, qui s'appelle Ut Pictura 18, hein, je crois qu'on dit comme ça, qui est accessible sur Internet et qui vous permet de regarder de magnifiques œuvres du 18e qui, sans lui, ne seraient pas accessibles au public. Et puis, je pense que depuis l'écran de la représentation, en passant par la scène de roman jusqu'à l'œil révolté, il a un peu cerné le problème de la représentation littéraire et que c'est une question qui pour nous est centrale donc cette année. Alors, je vous laisse devant le titre qu'il a affiché sur l'écran, qui me paraît très alléchant. Je n'en sais pas plus que vous sur les images qui apparemment vont se mais nous allons les découvrir ensemble et vraiment sois remercié pour ton intervention par avance. Voilà.
Bien, bon ben je voudrais moi aussi remercier les organisateurs de ce cycle de conférences que je trouve tout à fait intéressant et stimulant, très utile aussi, et je dois dire que je suis très sensible à toutes les tentatives, toutes les expériences de rapprochement entre les classes préparatoires et les universités. C'est très important, c'est comme ça qu'on travaille bien, je crois, et tout le monde y gagne. Donc, merci beaucoup pour cette invitation et cette organisation. Je vais tout de suite commencer parce que je me suis lancé dans une expérience complètement folle, vous allez le comprendre tout de suite dès les premières minutes de cet exposé, et je me suis pas rendu compte que le titre de ma conférence supposait en fait d'avoir traité l'ensemble du programme. Et vu la date à laquelle nous sommes, voilà, c'est du délire total. Mais donc, on va faire ce qu'on va pouvoir. Et vous allez voir, je vais d'ailleurs commencer par parler de la folie. Alors, donc, nous sommes ici devant un tableau de Peter Lastman. Et je vais commencer par le décrire. Au premier plan, à droite, Démocrite, installé sous un arbre près d'une rivière, rédige son livre sur la mélancolie. À côté de lui, des animaux éventrés témoignent de ses recherches pour localiser la bile. Parce que la mélancolie, c'est la Bible. La bile, pardon. Démocrite est absorbé, il ne voit, il n'entend personne. Il réfléchit, il médite dans sa sphère à l'écart de la cité. l'arbre et la rivière, désigne le locus amoenus philosophique, celui par exemple que Platon décrit au début du Phèdre. Derrière Démocrite, au second plan, plus sur la gauche, un homme richement vêtu de rouge se hausse, se contorsionne pour voir ce que le philosophe écrit. C'est Hippocrate, le célèbre médecin de Cos, délégué par les Abdéritains auprès de leur grand homme qu'il croit devenu fou. Hippocrate est ici un médiateur, occupant un espace intermédiaire. Drapé dans son éclatant manteau d'écarlate, il pourrait tenir un discours. Sa posture d'ambassadeur, d'orateur, contraste avec l'absorbement de la méditation philosophique. Au fond, à gauche, enfin, les Abdéritains rassemblés, devant la rotonde d'un temple en ruine, assistent à la scène. Spectateurs du dialogue d'Hippocrate et de Démocrite, ou plus exactement de la médiation du médecin auprès du philosophe, les villageois rassemblés constituent la communauté, l'espace politique, espace supérieur, placé en haut du tableau, cautionnant légitimement l'ensemble de la représentation. Mais espace ruiné, révolu, comme le signifie l'herbe folle qui dépasse de la rotonde, dont le toit a disparu. Hippocrate représente la cité devant Démocrite. Proférant le discours en son nom, il produit la représentation. Le tableau, d'ailleurs, représente la lettre apocryphe d'Hippocrate à Damagète, dans laquelle le médecin est censé raconter cette rencontre. Donc une lettre qui a été écrite dans l'Antiquité grecque à une époque incertaine et qui a eu un énorme succès ensuite à la Renaissance. L'image équivaut au récit d'Hippocrate, dont la figure sur la toile, je vais revenir au tableau complet, voilà, occupe une position articulatoire entre l'espace politique, institution symbolique ruinée en haut, et l'espace philosophique, le lieu principiel de la pensée, où Démocrite définit les fondements de la médecine des humeurs, dont Hippocrate est le praticien. Quoique placé au premier plan, au fondement, au principe de la représentation, Démocrite s'en exclut. Absorbé, il ne voit personne, il ne communique pas. Démocrite définit la chambre de la représentation. La chambre de l'esprit, c'est la sédia, cette mélancolie que, dès le Moyen-Âge, tantôt on stigmatise comme péché de libido sciendi, tantôt on recherche comme l'expression supérieure de l'activité intellectuelle. En bas, c'est vous. La chambre fonde, mais nie la représentation. Ce qui rend possible la scène, ce qui institue la mimésis, c'est la médiation d'Hippocrate. C'est l'articulation qu'il rend rhétoriquement possible du politique au philosophique, de l'espace vague et ruiné du public à l'espace restreint et soustrait de la chambre de l'esprit. La rencontre d'Hippocrate et de Démocrite figure une articulation essentielle de notre culture. Les lettres apocryphes d'Hippocrate sont populaires à la Renaissance, je le disais tout à l'heure. Et la rencontre d'Hippocrate et de Démocrite est évoquée par Robert Burton dans The Anatomy of Melancholy et commentée par Marcelin Bompard dans la conférence et entrevue d'Hippocrate et de Démocrite, hein, qui paraît à Paris chez la veuve Gautier en 1632. Elle inspire la fable 26 du livre 8 des fables de La Fontaine, 1678, et constitue un véritable thème iconographique de la peinture classique. Outre le tableau de Peter Lastman, qui date du début du XVIIe siècle, il y a la réplique de Nicolas Berchem, que vous trouverez sur Haute Pictura 18, et sinon la mélancolie de Démocrite figure en haut du frontispice de The Anatomy of Melancholy, en 1628. Et elle est reprise par Salvator Rosa, en 1650, avec au premier plan les carcasses d'animaux, qui font explicitement référence à cette rencontre avec Hippocrate, puisque Hippocrate rencontre Démocrite au moment où il a découpé ses animaux pour essayer de trouver l'endroit où était la bile. Même si les carcasses, ainsi que la posture du philosophe, ici, évoquent plutôt la mélancolie de Dürer, ou plus encore celle de Féti, hein, elles font glisser la mise en scène de l'espace philosophique vers le thème plus banal, il faut le dire, de la vanité. Ce qui se joue dans cette rencontre, donc la rencontre entre Hippocrate et Démocrite, c'est la superposition de trois espaces symboliques. Espace politique, espace rhétorique, espace philosophique. superposition par rapport à laquelle il nous appartiendra de situer ce qu'on pourrait appeler une représentation littéraire. À en croire Diogène Laërce, qui cite Aristoxène, Platon détestait Démocrite, au point de vouloir faire brûler tous ses livres. Bon, ce que raconte Diogène Laërce, enfin en tout cas, c'est deux philosophies assez antithétiques. L'anecdote est douteuse, la rencontre d'Hippocrate et de Démocrite l'est encore plus, il n'empêche. Dans le Gorgias, Platon interroge radicalement cette double articulation du symbolique qui définit l'espace de la représentation comme superposition du politique, du rhétorique et du philosophique. Et donc, je passe à Gorgias. Socrate entreprend Gorgias après sa performance. Vous vous souvenez du début du Gorgias, hein ? Ça se passe après coup. Gorgias a fini son discours, Socrate arrive en retard. Le rhéteur a quitté la scène, il rentre chez lui. Le moment de vérité vient après l'exhibition théâtrale, dans le retrait de soi, au déboté de l'intime. Ce moment est brutal. Socrate prévient Gorgias. L'interrogation philosophique peut prendre la forme d'une attaque ad hominem. Point de vérité sans une remise en question radicale de soi. À la scène rhétorique, marquée par l'expansion narcissique du discours, Gorgias tout puissant prétend pouvoir tenir un discours sur tous les sujets, avoir réponse à tout, s'oppose la chambre de la philosophie qui démonte ce discours, le dialogise dans l'eironeia, l'interrogation faussement naïve, le casse, le bloque pour atteindre, pour blesser derrière lui l'enveloppe fragile du sujet parlant réduit au silence. On est loin ici des feux de la rampe, loin de leur théâtralité, même si le dialogue platonicien suppose une certaine mise en œuvre théâtrale. Un théâtre après le théâtre, en quelque sorte. Une critique ménipéenne du théâtre, le métadialogue d'une satire sur les fins dernières de l'homme, pour reprendre l'expression de Bakhtine. Mais la teinte intime qui blesse Gorgias, l'attaque brutale que déclenche le passage d'un régime de parole et d'un espace de représentation rhétorique à une parole et à un espace philosophique ne constitue pas une fin en soi. La critique socratique de la rhétorique vise un troisième espace qu'elle accuse la rhétorique d'avoir falsifié. Et cet espace, c'est l'espace politique. Dans l'espace politique, la parole démocratique est censée discriminer le juste de l'injuste, je paraphrase Platon, hein, et persuader la communauté du vrai, afin que les bonnes décisions soient prises. Mais la rhétorique parasite cette parole politique, dont elle produit des simulacres, des représentations convaincantes, certes, qui font illusion, mais qui sont sans lien nécessaire, ni avec le juste et l'injuste, ni avec le vrai. La parole socratique déconstruit donc la rhétorique de Gorgias au nom d'un retour à l'origine politique du langage. La rhétorique, en pratiquant à volonté des représentations du discours politique, supplée celui-ci, mais le trahit. La philosophie dénonce cette trahison sans pour autant restaurer cette origine, car de parole en parole, on a changé à chaque fois d'espace. De l'ecclésia, où se déroulent et se décident les affaires de la cité, on est passé d'abord à la scène où s'exhibe le rhéteur. Gorgias n'a pas fait sa performance devant l'ecclésia, mais dans une salle privée, une salle de conférence. Puis, de la scène d'exhibition rhétorique, on est passé à l'espace privé, à la retraite, à la loge d'acteurs où s'engage le dialogue philosophique. Le spectacle mime et parodie l'ecclésia. La loge, la chambre, mime et parodie le spectacle. On s'éloigne de fait de plus en plus de l'espace originaire, l'espace politique. Comment la littérature se situe-t-elle par rapport à cette tripartition ? L'efficacité de la littérature ne saurait être immédiatement politique. Elle ne recherche pas non plus nécessairement ni directement la vérité. On connaît la mise en accusation classique de la fiction comme mensonge qui culmine au XVIIIe siècle avec l'épisode de la proscription des romans. La littérature est affaire de simulacres. L'essence, l'enjeu de la littérature est de produire une des représentations littéraires, des figures. Considérée du seul point de vue des régimes de parole, la littérature apparaît donc comme une émanation, une catégorie de la rhétorique. La quintessence même de la rhétorique, dégagée de toute efficacité pratique immédiate pour un usage pur, artistique, esthétique. Une telle conception de la littérature est sous-jacente au structuralisme et à la formalisation narratologique du discours littéraire qui en a découlé, sous l'égide notamment de Gérard Genette. Si maintenant nous reposons la même question du rapport entre littérature et rhétorique, en la considérant non plus du point de vue des régimes de parole, que distingue le Gorgias, mais des espaces symboliques qu'ils mettent en œuvre. Et c'est pour cette raison que j'ai commencé par l'analyse d'un tableau. Donc je rappelle les espaces symboliques, l'ecclésia, la scène et la chambre. La réponse n'est plus aussi évidente, et elle ne saurait être identique. L'espace de la parole littéraire, de ce que nous appelons littérature aujourd'hui, n'est certes pas l'espace public de la délibération et de la décision politique. Mais ce n'est pas non plus celui du show, parce qu'en gros c'est l'espace du show, l'espace de Gorgias, l'espace de la performance qui est dévolu à l'acteur, à l'interprète de l'écrivain, mais pas à l'écrivain lui-même. C'est ici que la figure de Montaigne joue un rôle fondateur. Écrit depuis son cabinet, dans la retraite, les essais procèdent de l'intimité de la chambre. Ils viennent, après la compilation des exemplats, comme une interrogation radicale qui brise, qui défait leur jeu rhétorique. Dans « De l'institution des enfants », on peut lire. Quoi qu'il en soit, veux-je dire, et quelles que soient ces inepties, je n'ai pas délibéré de les cacher, non plus qu'un mien pourtrait chauve et grisonnant, où le peintre aurait mis, non un visage parfait, mais le mien. Les inepties distancient, les inepties et les essais, distancient d'emblée, mettent à distance la parole auctoriale. Parce que ce ne sont que des inepties, des propos impropres, inadaptés, à la limite donc des écarts par rapport à la vérité. Les essais sont authentiques, non un visage parfait, mais le mien. Non un portrait d'apparat, pour la scène, pour le show médiatique, mais un portrait en robe de chambre, comme dirait Diderot, un portrait dans l'intimité du cabinet. C'est la retraite qui permet de ne pas se cacher. Je n'ai pas délibéré de les cacher, dit Montaigne, comme ce sont les inepties qui disent l'authenticité. Donc comprenez le paradoxe qu'il y a là. On retrouve ici le jeu ménipéen de la posture socratique. Exposition de soi, eironeia, mobilisation de l'intime pour la recherche de la vérité. Mais la recherche de Montaigne passe par le portrait, un mien pourtrait chauve et grisonnant. Elle suppose, elle impose une représentation littéraire qui déroute en quelque sorte, qui reporte, qui médiatise la recherche philosophique. Montaigne reprend à maintes reprises la métaphore du portrait. Ainsi, au début de l'essai de l'amitié, c'est peut-être le passage le plus célèbre. Considérant la conduite de la besogne d'un peintre que j'ai, il m'a pris envie de l'en suivre. Il choisit le plus bel endroit et milieu de chaque paroi pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance. Et le vide tout autour, il le remplit de grotesques qui sont peintures fantasques, n'ayant grâce qu'en la variété et étrangeté. Que sont ici ainsi, à la vérité, que grotesques et corps, pardon, que sont ici aussi, à la vérité, que grotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre, suite ni proportion que fortuité. Dessinit in piscem mulier, formos. Je traduis parce que j'ai pitié de vous. Il est une femme sublime en haut qui se termine en queue de poisson. La conduite des essais devrait suivre la conduite du peintre décorant à fresque les murs d'une pièce. Il m'a pris envie de l'en suivre, dit Montaigne. Sur la surface à peindre, Montaigne distingue deux espaces. La partie centrale et noble du mur, le plus bel endroit et milieu de chaque paroi, est destinée au tableau proprement dit où le peintre déploiera tout son art, tout le brillant de son savoir-faire, pour y loger un tableau élaboré de toute sa suffisance. Dans cet espace, nous reconnaissons le lieu de la performance rhétorique, la scène où Gorgias se produit dans toute sa gloire. Montaigne est porté par le désir de remplir cet espace. « Il m'a pris envie de l'en suivre, dit-il. » Mais les essais n'y parviennent pas, demeurent en deçà, en retrait par rapport à cette exhibition. Le lieu des essais, ce sont les marges du tableau central, les grotesques qui remplissent gratuitement le vide tout autour. Un supplément donc du vide marginal de la représentation, alors que la représentation même est laissée vide. La littérature, dont la démarche propre s'invente ici, est assigné à une logique du grotesque de la peinture livrée aux aléas de l'imagination. Grotesques qui sont peintures fantasques, dit Montaigne. Une logique qui n'est pas la logique rhétorique des figures, elle est, nous dit Montaigne, sans certaines figures, sans une figure certaine, hein, sans la marche réglée d'un enchaînement de figures. L'espace proprement littéraire n'est donc pas seulement un espace de marge et de bordure, fantasque, sans figure assurée, c'est un espace vague, c'est le vague depuis lequel ça pointe, ça regarde vers la suffisance du tableau. Un tableau élaboré de toute sa suffisance. Et plus loin, ma suffisance ne va pas si avant que d'oser entreprendre un tableau, dit Montaigne. La citation d'Horace, hein, c'est la sirène qui évoque la sirène, reprend l'image des grotesques, mais infléchit la métaphore. Contrairement aux grotesques marginaux, qui établissaient une différence, une polarité avec l'espace central du tableau, la sirène désigne l'ensemble de l'espace de la représentation, qui commence comme la figure suffisante d'une moulière formosa, dans le mouvement initial de l'envie montaignienne, envie de peindre une belle femme, mais s'achève en queue de poisson, tessinit in piscem. Le grotesque supplée le tableau. Comme décoration marginale, il vient en plus du tableau. Mais comme sirène, il contient le tableau. Moulière formosa et la déconstruction du tableau, tessinit in piscem. L'espace littéraire, qui est l'espace vague du grotesque, apparaît donc comme feuilleté, comme superposant un dessus prometteur et trompeur, Molière Formosa, un appareil rhétorique, hein, tout ça c'est Molière Formosa, et un dessous inepte, ignoble, intime, le dessous de la chambre. L'incertitude du soubassement est une donnée fondamentale de l'imaginaire montaignien. Si nous nous amusions parfois à nous considérer, et le temps que nous mettons à contrôler autrui et à connaître les choses qui sont hors de nous, que nous l'emploissions à nous sonder nous-mêmes, nous sentirions aisément combien toute cette notre contexture est bâtie de pièces faibles et défaillantes. C'est dans D'un mot de César. La matière des essais est cette contexture intime, cette infrastructure du moi, qui dessinit in piscem, qui défait le contre-rôle extérieur, ou plutôt supérieur, pour mettre en évidence, en dessous, une faiblesse, une défaillance, une défiguration. La conscience de la superposition des espaces dont nous sommes faits, le rôle, le contre-rôle et la contexture des pièces faibles définit la littérature comme ce ménagement de l'hétérogène, pointant vers un blanc, un vide, une défaillance de la représentation. Dans « De la tristesse », Montaigne évoque les ratés de l'expression des passions. Les plus grandes douleurs ne donnent pas nécessairement lieu aux plus fortes manifestations. Psaménitus, roi d'Égypte, se tient quoi sans maudire au spectacle de sa fille conduite en esclavage, puis de son fils qu'on menait à la mort, pour n'exprimer sa tristesse qu'au départ en captivité d'un domestique subalterne. De même, François de Guise reçoit sans broncher les nouvelles successives de la mort de deux frères, mais manifeste sa douleur lorsque, je cite, « un de ses gens vint à mourir ». Donc le dernier qui meurt lui fait plus d'effet que son propre fils ou sa propre fille. Dans le réel, l'expression des passions manifeste sans cesse des aberrations. Est-ce que les douleurs, s'ajoutant les unes aux autres, la moindre surcharge brisa les barrières de la patience, dit Montaigne, ou au contraire faut-il distinguer douleur discible et douleur indicible ? Ce seul dernier des plaisirs se peut signifier par larmes, les deux premiers surpassant de bien loin tout moyen de se pouvoir exprimer, dit Montaigne. Autrement dit, le blanc, le raté dans l'expression des passions, peut se comprendre comme un excès ou comme un défaut. Défaut de douleur, en deçà de ce que la constance du héros peut supporter sans broncher. Ou excès de douleur, pour lequel il n'y a plus d'expression adéquate. Le défaut héroïque et public, le roi, le prince vaincu, témoignant politiquement de leur grandeur dans l'adversité, se confond avec l'excès sensible et intime, le père, le frère, atteint au plus profond d'eux-mêmes, dans la brutalité secrète d'une douleur impossible à publier. Il est indécidable si ce blanc doit être assigné à l'espace politique de l'exemplarité ou au retrait, au repli de l'innommable, en gros, si on doit l'assigner à l'ecclésia ou à la chambre. Le blanc court-circuite le feuilletage des espaces et, comme défaut de représentation, il noue la représentation comme littéraire. De fait, le troisième exemple auquel Montaigne recourt, après Psaménutius et François de Guise, est celui de la douleur d'Agamemnon face au sacrifice de sa fille Iphigénie. Non la douleur réelle d'un prince historique, mais le problème de la représentation de cette douleur en peinture, tel qu'il s'est posé à Timanthe, célèbre peintre antique, hein, Timanthe à qui ce sujet avait été commandé. À l'aventure reviendrait à ce propos l'invention de cet ancien peintre, lequel, ayant à représenter au sacrifice de Iphigénia, le duel des assistants selon les degrés de l'intérêt que chacun apportait à la mort de cette belle fille innocente, ayant épuisé les derniers efforts de son art, quand se vint au père de la fille, il le peignit le visage couvert, comme si nulle contenance ne pouvait représenter ce degré de duel. Le blanc central du visage voilé d'Agamemnon déçoit ce vers quoi converge la représentation. L'ambiguïté sublime de la douleur du prince, soit contenue politiquement par le déploiement d'une contenance héroïque, soit soustraite intimement en deçà de toute représentation possible. Comme le tableau des essais évoqué au début de l'essai de l'amitié, constitué des seules grotesques marginales, pointant vers le centre vide d'une représentation impossible à représenter, le tableau de Timanthe ne représente que les réactions accessoires, secondaires, subalternes à la tragédie qui se joue, dont la gradation pointe vers l'irreprésentable douleur d'Agamemnon. Le point focal de la représentation n'est pas seulement irreprésentable, il délimite un espace restreint, cerné par l'espace vague des grotesques de l'amitié ou des spectateurs subalternes de la scène tragique, c'est l'Iphigénie de Timanthe. Cet espace est le lieu de la parole rhétorique. En effet, l'exemple d'Iphigénie que rapporte Montaigne est emprunté à Quintilien. C'est même un exemple absolument central pour la rhétorique, hein, dans l'institution oratoire. Donc je vais maintenant me pencher un peu justement sur cet exemple de Quintilien au chapitre 13 du livre 2 des institutions oratoires. Quintilien s'interroge sur les bornes dans lesquelles l'art oratoire doit se renfermer. Quis sit modus in arte, hein, quelles sont les bornes de l'art ? Édicter une série de règles, nous dit Quintilien, serait simpliste et vain. Les manuels de rhétorique, c'est bidon, nous explique Quintilien. Il faut d'abord s'en remettre à l'esprit de discernement, au tact de l'orateur. Car ce sont les circonstances et le sujet qui dictent les règles d'organisation du discours. Il faut donc savoir déroger aux règles, en témoigne la variété des airs, des visages, des attitudes, dans les statues et les peintures. Le discobole de Miron, représenté dans une pose tourmentée et sophistiquée, distortum et elaboratum, dit Quintilien, qui déroge à toutes les règles d'harmonie, mérite l'éloge par la difficulté vaincue. Ce sont les mêmes critères qui décident de la grâce des figures de pensée et des figures de mots. Elles ont en effet, je cite Quintilien, je ne sais quoi de détourné et plaisent par cela même qu'elles s'éloignent de la manière commune. Bon, je vous passe le latin. Ainsi, la peinture veut normalement qu'on représente le visage entier des personnages, mais appelle à peindre Antigone le Borgne, le général d'Alexandre, de profil pour cacher la difformité de son œil perdu. C'était celui qui n'était pas révolté. Bon. La dissimulation est également une exigence du discours, car il y a des choses qu'on ne doit pas dire, d'autres qu'on ne peut pas décemment dire. Vient alors l'exemple de Timanthe. Ayant à représenter le sacrifice d'Iphigénie, il avait peint Calchas triste, Ulysse plus triste encore. Il avait épuisé dans Ménélas tout ce que l'art peut donner à la douleur. Et comme il ne savait comment exprimer l'affliction du père, il lui voila la tête, velawit eius caput, laissant à chacun à juger avec son cœur de ce qui se passait sur le visage d'Agamemnon. Et suo quique animo dedit a estimandum. C'est ce suo animo qui est intéressant, hein, dans le cœur de chacun. Chez Quintilien, l'exemple de Timanthe s'inscrit dans un plaidoyer pour le concilium. Il faut avoir du jugement en fonction des circonstances. C'est le concilium qui est important pour l'orateur et non pas les praecepta, les recettes toutes faites. La rhétorique ne s'enseigne pas dans les manuels. C'est une affaire de circonstances et de jugement. Voiler le visage du roi, donc c'est là le moyen que Timanthe a trouvé pour représenter la douleur d'Agamemnon, comme montrer Antigone le Borgne de profil ou contorsionner le corps du discobole, ce n'est pas affaire de règles, mais d'ingéniosité, d'invention pour repousser les limites de l'art et représenter quand même ce qui paraissait a priori impossible, incompatible avec les règles ordinaires de la représentation. L'ingéniosité passe par le détour, figuré d'abord par le corps distordu du discobole, puis par le visage détourné d'Antigone, enfin, au sommet de la gradation, par le voile sur le visage d'Agamemnon. Le voile détourne la représentation du visage du tableau dans l'imagination du spectateur, suo quique animo. C'est le détour maximal. Chez Montaigne, il ne s'agit plus ni de la polarité entre concilium et praecepta, ni de l'exploit de la novitas ac difficultas. Je reprends les termes clés du texte de Quintilien. Le problème n'est plus de l'efficacité ou de l'ingéniosité de la représentation, mais du paroxysme réel du deuil, de cette douleur dans la tristesse qu'il est impossible de représenter. Le blanc sur le tableau, comme les yeux fichés en terre de Psaménitus, ou la morne, muette et sourde stupidité qui transignobée, ou le regard fixe de Raïskiak, ne constitue pas un ingénieux détour, mais marque une faillite de la représentation. Une faillite qui fonde la représentation littéraire comme déconstruction envers de la représentation rhétorique. La représentation rhétorique tend vers un point focal de dépression dans l'expression, un blanc, un vide, une ambiguïté, une zone de désémantisation où la scène pourtant convoquée se défait. Agamemnon avec son voile, un voile sur le visage ou sa tête enfouie dans son manteau ou simplement ses mains recouvrant son visage, produit un effet d'étrangeté, d'incongruité. À ce titre, la conclusion de l'essai de la tristesse est significative. Cet essai se termine par la phrase suivante. « Je suis peu en prise de ces violentes passions », nous dit Montaigne. En gros, moi, la tristesse, je connais pas. J'ai l'appréhension naturellement dure et l'encroûte est épaissie tous les jours par discours. » Face à cette stupeur morne, qu'il a décrite dans tous ses personnages qui connaissent des catastrophes absolument abominables, il n'y a pas d'empathie possible. Montaigne s'en désolidarise. Dans De l'amitié, Montaigne se désolidarise de même du peintre au moment d'exécuter le tableau central. Il y mettrait bien le discours de la Boétie sur la servitude volontaire. Mais il y renonce, car, utilisé par les protestants contre le roi, le texte de la Boétie a été, je cite Montaigne, « publié à mauvaise fin ». Supplément posé sur un tableau vide, la servitude volontaire introduit la brutalité du réel, la guerre civile, la révolte des protestants pour l'émancipation religieuse. Il introduit cette brutalité dans le dispositif de la représentation, de la même façon que le voile sur le visage du roi, crevant la toile, crevant l'écran de la représentation, introduit dans l'ordonnancement rhétorique de l'expression des passions la rupture du réel, cet excès qui est en même temps un défaut dans l'expression de la douleur, le « diriguisse malis » de Niobé. Elle s'est raidie dans les malheurs. « Diriguisse malis », formule qu'il emprunte à Ovide et qui est magnifique. J'y reviendrai parce que j'aime beaucoup « diriguisse malis ». On touche ici à ce qui spécifie la représentation littéraire comme dispositif à trois niveaux. Le niveau rhétorique n'en constituant que l'intermédiaire, c'est-à-dire ni le fondement, la chambre philosophique, ni l'achèvement dans la communauté politique. Toujours, la représentation pointe vers un propre, une expression culminante, où ce niveau intermédiaire s'efface, disparaît, laissant apparaître la confrontation brutale du principe symbolique, la chambre, et de l'institution symbolique, le public, le politique, l'ecclésia. Dans la fable 16 du livre 8 des fables, La Fontaine, La Fontaine raconte comment un père, c'est l'horoscope, elle s'appelle, voulant protéger son fils unique des prédictions d'un diseur de bonne aventure, avait enfermé son fils, chéri, dans son palais pour l'empêcher de risquer la mort à la chasse au lion. Le jeune homme, de tempérament impétueux, erre dans les chambres de ce logis plein de magnificence jusqu'à tomber en arrêt devant une tapisserie où un lion est représenté. Je cite La Fontaine. Le jeune homme s'émeut, voyant peint un lion. « Ah, monstre » cria-t-il, « c'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers !» À ces mots, il se livre au transport violent de l'indignation, porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie, un clou se rencontra. Ce clou le blesse, il pénétra jusqu'au ressort de l'âme. et le jeune homme meurt quelque temps après. Au milieu des magnificences, la représentation par excellence, vers laquelle pointe l'ensemble de la fable, c'est la tapisserie du lion, qui n'est plus une œuvre d'art dans un palais, une représentation, mais qui désigne à la fois le dehors interdit au jeune homme, le lion de la chasse, la représentation du réel, et la prophétie du diseur d'horoscope, le lion de la prophétie, la structure symbolique de la représentation. Le lion, c'est le réel, et le lion, c'est le mot de la fable. Ce que le lion n'est pas, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est la scène rhétorique de la représentation. La mort tragique du jeune homme à la chasse, annoncée par le début de la fable. Elle aurait constitué cette mort, une scène magnifique, une scène comme le récit de Théramène à la fin de Phèdre. Plus exactement, la tapisserie devait représenter cette mort. Au lieu de cela, le jeune homme la caractérise comme irreprésentable. Ce n'est pas un lion, c'est un monstre. Il s'exclame « Ah, monstre !» Un monstre que le jeune homme interpelle. Et qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? C'est une chimère, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de figure, qui est au-delà de toute figuration. Et ce monstre renvoie le jeune homme à sa prison, à sa chambre. Je cite « C'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » L'ombre, le défaut de lumière, interdit la représentation. L'ombre s'oppose à la scène, désigne le retrait dans la chambre, les fers du cachot, par contraste avec les feux de la rampe. Le face-à-face du jeune homme avec la tapisserie, qui isole celle-ci au cœur des magnificences du logis et introduit une découpe, la découpe même du tableau au milieu des grotesques évoquées par Montaigne dans De l'amitié, défait la représentation, la défigure en monstre et la plonge dans l'ombre pour produire la rencontre, le choc brutal du réel et du symbolique, du lion de l'aventure, la scène de la mort avec le lion qui aurait dû avoir lieu dans la forêt, et du lion de la bonne aventure, le mot de l'astrologue. Peut-on identifier le lion à la métalepse dont Gérard Genette fait le macrotrope, si j'ose dire, de tout récit ? Ça fait un peu macrobiotique cette affaire. Bon, en s'adressant au lion de la tapisserie, comme à un lion réel, le jeune homme ramène bien le niveau de la représentation, la tapisserie, au niveau du réel. Il s'adresse directement à un monstre. Et cette façon de ramener le niveau de la représentation au niveau du réel, c'est ce qui est caractéristique de la métalepse, c'est ce qui définit rhétoriquement la métalepse. Mais on prendra attention au fait que Genette définit la fiction comme métalepse à partir d'un mouvement inverse. Je cite Genette donc dans Métalepse. Une fiction n'est en somme qu'une figure prise à la lettre et traitée comme un événement effectif. C'est pour ça que j'ai parlé de macrotrope. Ici, c'est le lion réel qui hante le père et qu'invective le fils qui est finalement traité comme une figure et tue en quelque sorte figuralement le jeune homme. Le jeu métaleptique, au sens où l'entend Genette, est présent dans la fable, mais à un autre niveau. C'est un horoscope qu'a délivré le diseur de Bonaventure. L'horoscope se fonde sur les signes du zodiaque. Or, à l'article Lion du dictionnaire de Furtière, nous lisons que, je cite Furtière, « Selon les astrologues, le signe du lion est un signe oriental, chaud, sec, colérique, igné. » Plein de feu, hein. Le signe du lion caractérise le fils, qui a tout ce tempérament-là. Il est du signe du lion, c'est pour ça qu'il doit mourir par le lion. Le signe du lion, donc, caractérise le fils, et la fiction transforme le signe en figure vivante, en personnage. Ça, c'est la métalepse de Genette. Hein. Je cite La Fontaine, rien, donc toujours dans la fable, rien ne change un tempérament, le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, soupire après la chasse et se livre au plus léger motif. Je cite à nouveau, au transport violent de l'indignation. Donc les transports violents de l'indignation, ils sont motivés par le signe du lion. Le jeune homme est la métalepse du récit, le signe du lion fait figure face à la figure du lion. Mais ce que la tapisserie du lion présente de résistance et de pointe mortelle au jeune homme ne constitue pas un macrotrope, c'est-à-dire une colonisation de l'ensemble du récit par la figure liminaire ponctuelle portée par l'horoscope. Tout au contraire, la figuration s'y défait. Vous avez du mal à suivre, vous craquez, c'est ça? La métalepse vous tue. Allez, la métalepse, ça tue pas, c'est le clou qui tue. C'est ça que nous enseigne La Fontaine. C'est ce que j'essaye de vous dire. Bon, je me calme et je reprends les choses plus doucement. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ce lion, il n'est pas, donc, il ne marque pas la colonisation de l'ensemble du récit par la figure liminaire. Au contraire, le lion de la tapisserie, c'est le moment où tout le système s'effondre, se défait. Parce qu'à la fin, il va rester que le clou. Hein. C'est le clou le truc important. C'est le clou qu'est le clou. Hein. Et donc, le jeu rhétorique s'effondre. À la pointe rhétorique attendue, l'hypotypose de la mort du protagoniste, La Fontaine substitue la pointe du clou, le retour de bâton brutal du réel, la défection de la fiction, l'irruption de la trivialité. Le clou, c'est le contraire de la pointe rhétorique, bien entendu. Traversant, et La Fontaine le fait exprès, évidemment, traversant les niveaux de la représentation littéraire, le clou conjoint, court-circuite, le réel et le symbolique. Je cite à nouveau La Fontaine, ce clou le blesse. Il pénètre jusqu'au ressort de l'âme. Un clou qui pénètre jusqu'au ressort de l'âme, faut le faire. La Fontaine ironise ici sur le modèle mécaniste cartésien qu'il parodie. L'âme même est montée sur ressort et le clou, tel une glande pinéale, passe du corps à l'âme, du matériel au spirituel, de la blessure physique à l'achèvement prophétique du conte. Au point du jeune homme, qui porte la vindicte de son regard sur la tapisserie, répond la pointe du clou, aberrante, inattendue, qui scelle pourtant son destin et accomplit l'horoscope. Aberrant, mais nécessaire, insignifiant, mais décisif, le clou constitue le punctum du tableau, par quoi tiennent ensemble les trois niveaux de la représentation littéraire. Il y a donc une représentation proprement... Alors, je vous en montre une autre version, c'est celle d'Oudry, je suis 18e quand même. Il y a donc une représentation proprement littéraire lorsque la scène tend à s'effacer devant la chambre, mettant celle-ci directement en communication avec le troisième niveau, le niveau symbolique ou public ou politique, ce que j'ai appelé l'ecclésia. L'intrigue du mariage de Figaro exploite de façon particulièrement spectaculaire ce jeu, ah non, mais vous, ils vont tous y passer, hein, ne croyez pas, hein. Ce jeu structural fondamental dans tout dispositif de récit. Au début de l'acte 2, Suzanne et la comtesse entrent dans la chambre de la comtesse. Suzanne informe la comtesse que Chérubin est exilé par le comte. Chérubin doit s'engager dans l'armée. Figaro survient et se concerte avec les femmes pour déjouer le dessein du comte d'exercer le soir même son droit du seigneur. C'est toute l'affaire, c'est qu'il faut violer Suzanne, hein, prendre les prémices de la virginité de Suzanne qui doit épouser Figaro dans l'après-midi. Figaro, pour essayer d'empêcher cette scène à venir qui pèse comme une menace sur toute la pièce, a fait parvenir au comte par Basile un faux billet dans lequel la comtesse est supposée, c'est un peu compliqué, hein, la comtesse est supposée donner un rendez-vous à un galant inconnu. Occupé à surprendre un rival imaginaire, le comte devrait laisser Suzanne tranquille. C'est le plan de Figaro qui va merder complètement, évidemment. Cependant, Suzanne fera savoir au comte qu'elle accepte le rendez-vous du soir afin que son mariage à Figaro ne soit pas empêché, parce qu'il lui a mis Marceline, il lui a dit si tu m'enquiquines, tu me donnes pas rendez-vous ce soir, je t'envoie Marceline dans les pattes et tu pourras pas faire ton mariage. Mais, donc dans le plan de Figaro, c'est Chérubin déguisé en Suzanne qui devra se rendre au rendez-vous. Donc tout ça, elle se met en place, se cristallise au début de l'acte 2. Chérubin, dont le départ à l'armée est donc secrètement retardé par tous les comploteurs contre le comte qui est jaloux de Chérubin, qui se doute bien qu'entre Chérubin et la comtesse, c'est louche. Donc Chérubin entre chez la comtesse et Suzanne lui enjoint de chanter la romance qu'il a composée pour la comtesse et qu'elle accompagne à la guitare. Pour ça que c'est très important parce que vous voyez sur le dessin qu'il y a le fauteuil spécial pour la guitare. Bon. Alors, ensuite, Suzanne va fermer la porte de la chambre de la comtesse, c'est à la fin de la scène 4. Et les deux femmes, la comtesse et Suzanne, entreprennent de déguiser Chérubin en Suzanne. Le comte veut alors entrer et trouve la porte de la chambre fermée. Alors c'est ça qui va m'intéresser, c'est de ça qu'on va s'occuper. C'est la scène 10 enfin la scène 10 à la scène 17, parce qu'il y a toute une série de rebondissements. Suzanne est sortie entre-temps par l'autre porte, au fond, c'est pour ça que le plan est utile, hein, pour que vous compreniez ce que je raconte. Elle est sortie par l'autre porte, au fond, figurée d'abord par le corps distordu du discobol, puis par le visage détourné d'Antigone, enfin, au sommet de la gradation, par le voile sur le visage d'Agamemnon. Le voile détourne la représentation du visage du tableau dans l'imagination du spectateur, suo quique animo. C'est le détour maximal. Chez Montaigne, il ne s'agit plus ni de la polarité entre concilium et praecepta, ni de l'exploit de la novitas ac difficultas. Je reprends les termes clés du texte de Quintilien. Le problème n'est plus de l'efficacité ou de l'ingéniosité de la représentation, mais du paroxysme réel du deuil, de cette douleur dans la tristesse qu'il est impossible de représenter. Le blanc sur le tableau, comme les yeux fichés en terre de Psaménitus, ou la morne, muette et sourde stupidité qui transignobée, ou le regard fixe de Raïskiak, ne constitue pas un ingénieux détour, mais marque une faillite de la représentation. Une faillite qui fonde la représentation littéraire comme déconstruction envers de la représentation rhétorique. La représentation rhétorique tend vers un point focal de dépression dans l'expression, un blanc, un vide, une ambiguïté, une zone de désémantisation où la scène pourtant convoquée se défait. Agamemnon avec son voile, un voile sur le visage, ou sa tête enfouie dans son manteau, ou simplement ses mains recouvrant son visage, produit un effet d'étrangeté, d'incongruité. À ce titre, la conclusion de l'essai de la tristesse est significative. Cet essai se termine par la phrase suivante. « Je suis peu en prise de ces violentes passions », nous dit Montaigne. En gros, moi, la tristesse, je connais pas. J'ai l'appréhension naturellement dure et l'encroûte est épaissie tous les jours par discours. Face à cette stupeur morne, qu'il a décrite dans tous ces personnages qui connaissent des catastrophes absolument abominables, il n'y a pas d'empathie possible. Montaigne s'en désolidarise. Dans De l'amitié, Montaigne se désolidarise de même du peintre au moment d'exécuter le tableau central. Il y mettrait bien le discours de la Boétie sur la servitude volontaire. Mais il y renonce, car, utilisé par les protestants contre le roi, le texte de la Boétie a été, je cite Montaigne, publié à mauvaise fin. Supplément posé sur un tableau vide, la servitude volontaire introduit la brutalité du réel. La guerre civile, la révolte des protestants pour l'émancipation religieuse. Il introduit cette brutalité dans le dispositif de la représentation, de la même façon que le voile sur le visage du roi, crevant la toile, crevant l'écran de la représentation, introduit dans l'ordonnancement rhétorique de l'expression des passions la rupture du réel, cet excès qui est en même temps un défaut dans l'expression de la douleur, le « diriguisse malis » de Niobé. Elle s'est raidie dans les malheurs. « Diriguisse malis », formule qu'il emprunte à Ovide et qui est magnifique. J'y reviendrai parce que j'aime beaucoup « diriguisse malis ». On touche ici à ce qui spécifie la représentation littéraire comme dispositif à trois niveaux. Le niveau rhétorique n'en constituant que l'intermédiaire, c'est-à-dire ni le fondement, la chambre philosophique, ni l'achèvement dans la communauté politique. Toujours, la représentation pointe vers un propre, une expression culminante, où ce niveau intermédiaire s'efface, disparaît, laissant apparaître la confrontation brutale du principe symbolique, la chambre, et de l'institution symbolique, le public, le politique, l'ecclésia. Dans la fable 16 du livre 8 des fables, La Fontaine, La Fontaine raconte comment un père, c'est l'horoscope, elle s'appelle, voulant protéger son fils unique des prédictions d'un diseur de bonne aventure, avait enfermé son fils, chéri, dans son palais pour l'empêcher de risquer la mort à la chasse au lion. Le jeune homme, de tempérament impétueux, erre dans les chambres de ce logis plein de magnificence jusqu'à tomber en arrêt devant une tapisserie où un lion est représenté. Je cite La Fontaine. Le jeune homme s'émeut, voyant peint un lion. « Ah, monstre » cria-t-il, « c'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers !» À ces mots, il se livre au transport violent de l'indignation, porte le poing sur l'innocente bête. Sous la tapisserie, un clou se rencontra. Ce clou le blesse, il pénétra jusqu'au ressort de l'âme. et le jeune homme meurt quelque temps après. Au milieu des magnificences, la représentation par excellence vers laquelle pointe l'ensemble de la fable, c'est la tapisserie du lion, qui n'est plus une œuvre d'art dans un palais, une représentation, mais qui désigne à la fois le dehors interdit au jeune homme, le lion de la chasse, la représentation du réel, et la prophétie du diseur d'horoscope, le lion de la prophétie, la structure symbolique de la représentation. Le lion, c'est le réel, et le lion, c'est le mot de la fable. Ce que le lion n'est pas, c'est ce qu'il y a entre les deux. C'est la scène rhétorique de la représentation. La mort tragique du jeune homme à la chasse, annoncée par le début de la fable, elle aurait constitué cette mort, une scène magnifique, une scène comme le récit de Théramène à la fin de Phèdre. Plus exactement, la tapisserie devait représenter cette mort. Au lieu de cela, le jeune homme la caractérise comme irreprésentable. Ce n'est pas un lion, c'est un monstre. Il s'exclame « Ah, monstre !» Un monstre que le jeune homme interpelle. Et qu'est-ce que c'est qu'un monstre ? C'est une chimère, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de figure, qui est au-delà de toute figuration. Et ce monstre renvoie le jeune homme à sa prison, à sa chambre. Je cite « C'est toi qui me fais vivre dans l'ombre et dans les fers. » L'ombre, le défaut de lumière, interdit la représentation. L'ombre s'oppose à la scène, désigne le retrait dans la chambre, les fers du cachot, par contraste avec les feux de la rampe. Le face-à-face du jeune homme avec la tapisserie, qui isole celle-ci au cœur des magnificences du logis et introduit une découpe, la découpe même du tableau au milieu des grotesques évoquées par Montaigne dans De l'amitié, défait la représentation, la défigure en monstre et la plonge dans l'ombre pour produire la rencontre, le choc brutal du réel et du symbolique, du lion de l'aventure, la scène de la mort avec le lion qui aurait dû avoir lieu dans la forêt, et du lion de la bonne aventure, le mot de l'astrologue. Peut-on identifier le lion à la métalepse dont Gérard Genette fait le macrotrope, si j'ose dire, de tout récit ? Ça fait un peu macrobiotique cette affaire. Bon, en s'adressant au lion de la tapisserie comme à un lion réel, le jeune homme ramène bien le niveau de la représentation, la tapisserie, au niveau du réel. Il s'adresse directement à un monstre. Et cette façon de ramener le niveau de la représentation au niveau du réel, c'est ce qui est caractéristique de la métalepse, c'est ce qui définit rhétoriquement la métalepse. Mais on prendra attention au fait que Genette définit la fiction comme métalepse à partir d'un mouvement inverse. Je cite Genette donc dans Métalepse. « Une fiction n'est en somme qu'une figure prise à la lettre et traitée comme un événement effectif. » C'est pour ça que j'ai parlé de macrotrope. Ici, c'est le lion réel qui hante le père et qu'invective le fils qui est finalement traité comme une figure et tue en quelque sorte figuralement le jeune homme. Le jeu métaleptique, au sens où l'entend Genette, est présent dans la fable, mais à un autre niveau. C'est un horoscope qu'a délivré le diseur de Bonaventure. L'horoscope se fonde sur les signes du zodiaque. Or, à l'article lion du dictionnaire de Furtière, nous lisons que, je cite Furtière, « Selon les astrologues, le signe du lion est un signe oriental, chaud, sec, colérique, igné. » Plein de feu, hein. « Le signe du lion caractérise le fils, qui a tout ce tempérament-là. Il est du signe du lion, c'est pour ça qu'il doit mourir par le lion. Le signe du lion, donc, caractérise le fils, et la fiction transforme le signe en figure vivante, en personnage. » Ça, c'est la métalepse de Genette. Je cite La Fontaine, rien, donc toujours dans la fable, rien ne change un tempérament, le jeune homme, inquiet, ardent, plein de courage, soupire après la chasse et se livre au plus léger motif. Je cite à nouveau, au transport violent de l'indignation. Donc les transports violents de l'indignation, ils sont motivés par le signe du lion. Le jeune homme est la métalepse du récit, le signe du lion fait figure face à la figure du lion. Mais ce que la tapisserie du lion présente de résistance et de pointe mortelle au jeune homme ne constitue pas un macrotrope, c'est-à-dire une colonisation de l'ensemble du récit par la figure liminaire ponctuelle portée par l'horoscope. Tout au contraire, la figuration s'y défait. Vous avez du mal à suivre, vous craquez, c'est ça? La métalèbse vous tue. Allez, la métalèbse, ça tue pas. C'est le clou qui tue. C'est ça que nous enseigne la fontaine. C'est ce que j'essaye de vous dire. Bon, je me calme et je reprends les choses plus doucement. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ce lion, il n'est pas, donc, il ne marque pas la colonisation de l'ensemble du récit par la figure liminaire. Au contraire, le lion de la tapisserie, c'est le moment où tout le système s'effondre, se défait. Parce qu'à la fin, il va rester que le clou. Hein. C'est le clou, le truc important. C'est le clou qui est le clou. Hein. Et donc, le jeu rhétorique s'effondre. À la pointe rhétorique attendue, l'hypothypose de la mort du protagoniste, La Fontaine substitue la pointe du clou, le retour de bâton brutal du réel, la défection de la fiction, l'irruption de la trivialité. Le clou, c'est le contraire de la pointe rhétorique, bien entendu. Traversant, et La Fontaine le fait exprès, évidemment, traversant les niveaux de la représentation littéraire, le clou conjoint, court-circuite, le réel et le symbolique. Je cite à nouveau La Fontaine, « Ce clou le blesse. Il pénètre jusqu'au ressort de l'âme. » Un clou qui pénètre jusqu'au ressort de l'âme, faut le faire. La Fontaine ironise ici sur le modèle mécaniste cartésien qu'il parodie. L'âme même est montée sur ressort et le clou, tel une glande pinéale, passe du corps à l'âme, du matériel au spirituel, de la blessure physique à l'achèvement prophétique du conte. Au point du jeune homme, qui porte la vindicte de son regard sur la tapisserie, répond la pointe du clou, aberrante, inattendue, qui scelle pourtant son destin et accomplit l'horoscope, aberrant mais nécessaire, insignifiant mais décisif, le clou constitue le punctum du tableau, par quoi tiennent ensemble les trois niveaux de la représentation littéraire. Il y a donc une représentation proprement... Alors, je vous en montre une autre version, c'est celle d'Oudry, je suis 18e quand même. Il y a donc une représentation proprement littéraire lorsque la scène tend à s'effacer devant la chambre, mettant celle-ci directement en communication avec le troisième niveau, le niveau symbolique ou public ou politique, ce que j'ai appelé l'ecclésia. L'intrigue du mariage de Figaro exploite de façon particulièrement spectaculaire ce jeu, ils vont tous y passer, hein, ne croyez pas, hein. Ce jeu structural fondamental dans tout dispositif de récit. Au début de l'acte 2, Suzanne et la comtesse entrent dans la chambre de la comtesse. Suzanne informe la comtesse que Chérubin est exilé par le comte. Chérubin doit s'engager dans l'armée. Figaro survient et se concerte avec les femmes pour déjouer le dessein du comte d'exercer le soir même son droit du seigneur. C'est toute l'affaire, c'est qu'il faut violer Suzanne, hein, prendre les prémices de la virginité de Suzanne qui doit épouser Figaro dans l'après-midi. Figaro, pour essayer d'empêcher cette scène à venir qui pèse comme une menace sur toute la pièce, a fait parvenir au comte par Basile un faux billet dans lequel la comtesse est supposée, c'est un peu compliqué, hein, la comtesse est supposée donner un rendez-vous à un galant inconnu. Occupé à surprendre un rival imaginaire, le comte devrait laisser Suzanne tranquille. C'est le plan de Figaro qui va merder complètement, évidemment. Cependant, Suzanne fera savoir au comte qu'elle accepte le rendez-vous du soir afin que son mariage à Figaro ne soit pas empêché, parce qu'il lui a mis Marceline, il lui a dit « Si tu m'enquiquines, tu ne me donnes pas rendez-vous ce soir, je t'envoie Marceline dans les pattes et tu ne pourras pas faire ton mariage. » Mais, donc dans le plan de Figaro, c'est Chérubin déguisé en Suzanne qui devra se rendre au rendez-vous. Donc tout ça se met en place, se cristallise au début de l'acte 2. Chérubin, dont le départ à l'armée est donc secrètement retardé par tous les comploteurs contre le comte qui est jaloux de Chérubin, qui se doute bien qu'entre Chérubin et la comtesse, c'est louche. Donc Chérubin entre chez la comtesse et Suzanne lui enjoint de chanter la romance qu'il a composée pour la comtesse et qu'elle accompagne à la guitare. C'est pour ça que c'est très important parce que vous voyez sur le dessin qu'il y a le fauteuil spécial pour la guitare. Bon. Alors, ensuite, Suzanne va fermer la porte de la chambre de la comtesse, c'est à la fin de la scène 4. Et les deux femmes, la comtesse et Suzanne, entreprennent de déguiser Chérubin en Suzanne. Le comte veut alors entrer et trouve la porte de la chambre fermée. Alors, c'est ça qui va m'intéresser, c'est de ça qu'on va s'occuper. C'est la scène 10. Enfin, la scène 10 à la scène 17, parce qu'il y a toute une série de rebondissements. Suzanne est sortie entre-temps par l'autre porte, au fond, c'est pour ça que le plan est utile, hein, pour que vous compreniez ce que je raconte. Elle est sortie par l'autre porte, au fond, qui conduit aux chambres des domestiques. La comtesse, du coup, cache Chérubin dans le cabinet de toilette, suivez sur le plan, hein, et elle ouvre au comte, ben, elle ouvre la porte au comte, qui, sur la foi du faux billet fabriqué par Figaro, et de la porte fermée à clé, la porte de la chambre de la comtesse, du trouble de sa femme, d'un bruit bizarre dans le cabinet, soupçonne immédiatement un amant caché dans le cabinet. La comtesse, refusant d'ouvrir le cabinet, le comte ressort avec elle pour aller chercher une pince. On rentre dans le bricolage. Pendant ce temps, Suzanne fait évader Chérubin par la fenêtre pendant que le comte et la comtesse sont sortis et se met à sa place dans le cabinet, puisque la comtesse a prétendu que c'était Suzanne qui était dans le cabinet. Donc Suzanne réalise après coup ce que la comtesse avait dit. À la scène 16, alors que le comte s'apprête à forcer la porte du cabinet, la comtesse, et là, gourde de chez gourde, finit par lui avouer qu'il va y trouver Chérubin, alors que Suzanne avait tout arrangé, qu'elle aurait pu rien dire du tout. Elle lui donne la clé et le comte a la surprise d'en voir sortir Suzanne, c'est la scène 17. Confondu, le comte présente ses excuses à la comtesse, c'est la scène 19. Alors, je vais... Voilà, ça a été illustré, c'est donc intéressant. La deuxième contrefaçon, dans les premières publications, je ne rentre pas dans le détail, c'est très compliqué l'histoire éditoriale du mariage de Figaro, mais donc, bon, il ne pouvait pas publier, du coup, comme ça avait un succès fou, il y a eu des éditions clandestines, et ces éditions, elles sont extraordinaires, notamment il y en a une qui contient les plans. Hein. Donc le plan que je vous ai fait, c'est, enfin, je l'ai remis, je l'ai remodernisé, mais ce n'est pas moi qui l'invente, il est sous forme de gravure dans cette deuxième contrefaçon de 1785. Vous le trouverez dans l'édition de la Pléiade de Beaumarchais, dans les notes de la fin. Et c'est très utile, hein, parce que pour ces actes-là où il y a beaucoup de mouvements, ça permet quand même de comprendre comment ça fonctionne. Sauf que les plans sont faux, je vais y venir dans un instant. Alors, de chaque côté de la scène, trois coulisses permettent d'aménager le décor. Alors là, je vais faire une petite pause, qui va vous reposer, et pour vous expliquer ce que c'est que les coulisses, parce que c'est quelque chose qui est mal connu. C'est très bien expliqué dans l'encyclopédie, mais c'est un peu compliqué. Nous, on a l'habitude de penser qu'au théâtre, ben, il y a la scène, puis derrière la scène, il y a les coulisses. Ouh là là, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Coulisses, ça vient de coulisser. Coulisses, une coulisse, c'est quelque chose qui passe sur des rails. Donc la coulisse, au départ, c'est quelque chose qui sert à fabriquer les décors latéralement. Alors plus vous avez un théâtre chic, plus vous avez de coulisses, c'est-à-dire plus vous avez des rangées de rails, les unes derrière les autres, qui permettent de tirer des décors. Donc là, sur le dessin que vous avez ici, alors est-ce que je peux me balader ? Allez, je m'enhardis. J'essaye quelque chose. On va voir si l'intendance suit. Je sais pas. Vous, en fait, vous voyez ces traits que vous avez là, c'est des rails dans le parquet qui permettent d'avancer donc les coulisses. Donc vous avez la première coulisse, la deuxième coulisse et la troisième coulisse. C'est donc le mariage de Figaro, il s'est joué sur une scène à trois coulisses. On fait rouler les rails. Et puis ensuite, à ces murets latéraux, on accroche les murs transversaux. Ensuite, on fixe les fenêtres et les portes. Et par exemple, pour fabriquer la fenêtre qui donne sur le jardin, il faut faire un paysage de jardin. Donc en fait, la fenêtre qui donne sur le jardin, c'est tout un espace. Vous voyez, parce que on fabrique la fenêtre. Et puis, donc en fait, le fond de la scène, c'est la troisième coulisse. Hein, mais il faut donner l'illusion, évidemment, aux spectateurs que ça se prolonge plus loin, qu'il y a tout un jardin derrière, qu'il va y avoir les appartements de la comtesse derrière. Et quand c'est bien fait, normalement, quand les personnages ouvrent les portes, on voit vaguement encore un petit décor derrière. C'est encore plus formidable dans l'illusion théâtrale, vous voyez, hein. Donc, les coulisses, c'est ça, première, deuxième et troisième coulisse. Parce que... vous allez voir, ça permet de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors, donc, l'acte 2, hein, donc, représente la chambre de la comtesse, et de chaque côté de la scène, trois coulisses permettent d'aménager le décor. Au fond, au centre, se situe l'alcôve où Suzanne se dissimule temporairement, c'est la scène 13, pendant la première altercation de la comtesse et du comte, avant que celui-ci n'emmène sa femme avec lui pour chercher de quoi ouvrir la porte du cabinet. Au fond à gauche, sur la troisième coulisse, se trouve la porte qui conduit vers la chambre des femmes de la comtesse. À droite, la fenêtre par où saute Chérubin. Le comte est entré dans la chambre de la comtesse par la porte latérale de gauche, ménagée entre la première et la deuxième coulisse. Ça va? Vous suivez? C'est un peu complexe, mais en fait, on s'habitue. Et puis après, parce qu'après, vous allez voir ce que ça donne en vrai, ça donne ça. Voilà. Chérubin puis Suzanne se sont cachés dans le cabinet de toilette de la comtesse que vous voyez à droite de la scène. Malheureusement, ce plan ainsi que cette gravure contredisent les indications des didascalies au début de l'acte 2. Je cite « La porte pour entrer, c'est-à-dire par lequel Suzanne et la comtesse rentrent, elles rentrent depuis la chambre des domestiques. La porte pour entrer s'ouvre et se ferme à la troisième coulisse à droite, celle d'un cabinet à la première coulisse à gauche. » Vous voyez sur la gravure qui est exactement construite comme le plan. Vous voyez que quand Suzanne sort du cabinet, elle sort pas du tout depuis la gauche, mais depuis la droite, et que la fenêtre, elle est bien à droite. Par contre, la porte d'entrée, on la voit pas, mais elle est un peu plus loin sur la gauche. Donc tout est inversé. C'est la disposition inverse. Donc voilà, tout ce que je vous ai expliqué, c'est faux. Maintenant, il faut faire la même chose à l'envers. Je reprends pas. C'est la disposition inverse de celle du plan, comme de celle de la gravure de Malapau d'après Saint-Quentin, hein, qui est publiée dans l'édition Ruault de 1785. Alors, cette confusion, elle est probablement due à l'inversion du dessin qui se produit au moment de la gravure. Voilà. Donc, le dessinateur a dû dessiner correctement, puis après, à la gravure, ça s'est inversé. Bon, peu importe, la disposition est la même. Ce qui nous intéresse ici, c'est tout le jeu scénique qui s'organise entre la scène du théâtre, visible, exposée, où se déploie le discours rhétorique, et le cabinet de toilette, en retrait, inaccessible au regard, muet. Beaumarchais théâtralise ici le dilemme de la scène et de la chambre, dont l'exutoire est le troisième espace, vague, l'espace de l'extérieur, suggéré par la croisée sur le jardin, ouverte dès la scène 1, car la comtesse a trop chaud. Et c'est également autre exutoire, mais moins évident, moins net, ce sont les appartements du comte, qui sont simplement caractérisés à la scène 10 comme « en dehors ». L'enjeu dramaturgique de l'acte 2 est la transformation de la scène en chambre. Pour opérer cette transformation, il faut fermer les accès à la scène. À la fin de la scène 4, Suzanne ferme la porte de communication avec les appartements du comte. À la fin de la scène 13, le comte, je cite, « va fermer la porte du fond et en ôte la clé ». La communication avec la chambre des femmes est coupée et le comte, satisfait, déclare à la comtesse, je cite, « maintenant que cette chambre est close, acceptez mon bras, je vous prie. Il s'agit de sortir, de laisser donc cette chambre totalement vide. La scène, évidemment, elle n'est pas vide parce qu'en fait, il y a Suzanne et il y a Chérubin, mais il ne le sait pas. La scène se conclut par cette didascalie, je cite, le comte l'emmène et ferme la porte à clé. Force est de constater pourtant que cette chambre close est ouverte à tout vent. Toute la gaieté et le mouvement de l'action théâtrale tiennent à ces portes qui claquent. Cette fenêtre qu'on ouvre, ces cloisons qu'on menace d'enfoncer. La fermeture de la chambre est une revendication de chacun des personnages, y compris la chambre charnelle que chacune de ces femmes aimerait pouvoir garder fermée. Hein ? Une chambre, donc, une revendication qui superpose la préoccupation géométrale de maintenir les ouvertures fermées, la hantise imaginaire d'une occupation indue, d'un forçage, et l'interdiction symbolique qui plane sur le sanctuaire féminin. Je cite la comtesse, hein, quand le comte essaye de la tyranniser, « Partout ailleurs, je ne puis l'empêcher, mais j'espère aussi que chez moi, point de suspension. Ici, je suis dans ma chambre, c'est moi qui dois avoir la maîtrise sur les portes. Hein, » C'est la scène 13, une phrase extrêmement importante. Elle est tellement importante qu'elle n'est pas achevée, parce que là, elle lui dit « Ici, c'est moi le chef, hein, c'est assez terrible. » Le forçage de la chambre suggère le viol. Le danger qui plane sur l'ensemble de la pièce n'est-il pas celui de ce droit du Seigneur, dont l'exercice consisterait à violer Suzanne? Suzanne, dont le nom biblique suggère la victoire de la chasteté dans le mariage contre l'attentat des deux vieillards lubriques de Babylone. La chambre de chasteté, identifiée par les mystiques au tabernacle marial, constitue donc le substrat spirituel de cette chambre des lubricités qui hante le comte. La double configuration de l'espace scénique, espace exposé de la scène proprement dite et espace retranché du cabinet de toilette, renvoie à ce très ancien substrat. Le nom même du conte, Alma Viva, évoque l'Alma Mater qui, avant de désigner l'université, désignait la Vierge Marie comme mère nourricière, mère pourvoyeuse de vie, Viva. Quant à Chérubin, son nom évoque bien sûr d'abord les bambins androgynes de la peinture rococo. Chérubin, le jeune page, n'est-il pas travesti en Suzanne à la scène 6 ? Mais plus profondément, les chérubins constituent le décor essentiel du tabernacle biblique. Je cite l'Exode, « Tu feras un rideau de pourpre, violette et écarlate, de cramoisi et de fin lin retors, brodé de chérubins. » Et saint Paul le rappelle dans l'Épître aux Hébreux, « Puis derrière le second voile était une tente appelée Saint des Saints, puis au-dessus, les chérubins de gloire couvrant d'ombre le propitiatoire. » L'iconographie chrétienne en a retenu les deux chérubins, ou les deux anges qui, de part et d'autre de la Vierge en majesté, écartent le voile du tabernacle où elle trône. L'alcôve de la comtesse, avec sa double tente, est représentée sur la gravure d'après saint Quentin, exactement sur ce modèle. Rien d'original là-dedans, d'ailleurs les alcôves du XVIIIe siècle sont toujours représentées comme des tabernacles. Certes, le mariage de Figaro n'est ni une pièce chrétienne, ni, ça c'est sûr, une méditation mystique. C'est pourquoi j'ai parlé de substrat. Ce qui a disparu du discours de la scène fait retour comme infrastructure scénique. Le jeu scénique entre la chambre de la comtesse et son cabinet, renvoyant à la fois ce que nous avons appelé la scène et la chambre, et à l'articulation biblique du tabernacle que la Septante désigne comme skéné. Donc articulation entre le saint et le saint des saints, entre l'espace ouvert à la célébration publique et l'espace soustrait du sanctuaire, le saint des saints. Il faut distinguer ici les différents usages du mot scène. Au théâtre, la scène désigne d'abord le lieu réel que la scène est supposée représenter. Je cite, au hasard presque, « La scène est à Butrotte, ville d'Épire, dans une salle du palais de Pyrrhus. » Ça vous évoque quelque chose, ça ? C'est la question à 1000 euros. C'est le début du texte d'Andromaque, c'est Racine qui explique ça. Mais Beaumarchais n'emploie pas scène dans ce sens, il l'emploie même jamais. Nous lisons dans le mariage de Figaro, au début de l'acte 2, que « le théâtre représente une chambre à coucher superbe ». C'est le théâtre. La formule « le théâtre représente » se retrouve au début de chacun des cinq actes du mariage de Figaro, ainsi que dans le Barbier de Séville et dans la Mère coupable. Le mot scène est utilisé en revanche à deux reprises par Chérubin dans l'acte 2 pour caractériser le scandale qui a éclaté sur scène. Et c'est le sens, je dirais, courant du mot scène au XVIIIe siècle. Je cite Chérubin, scène 10. Après les scènes d'hier et de ce matin, le comte me tuerait sur place. Et scène 14, toujours Chérubin, « Ah, Susan !» Alors, il vient d'entendre la colère du comte qui était pendant que lui et Chérubin étaient enfermés dans le cabinet. « Ah, Susan, quelle horrible scène !» La scène est le lieu, mais aussi l'expression du scandale, de l'éclat, de l'exposition de soi. On y explose, on y ment, on s'y arrange avec le réel. La scène offre une représentation du réel, représentation dont la représentation littéraire, ici théâtrale, se distancie. C'est pourquoi le conte se défie de ce qu'on lui raconte sur scène. L'éclat scénique doit produire la vérité, mais alors que toute la représentation est tendue vers ce tableau central, la parole se défait, la comtesse balbutie, la logique discursive est mise en échec. C'est dans le silence, le blanc, le geste muet qu'advient la vérité, par l'effondrement scénique qui, fugitivement, donne à voir la chambre et la met en contact avec l'Ecclésia. Mais tout le génie de Beaumarchais va consister à donner un tour de vis supplémentaire à ce dispositif général. À la scène 16, la comtesse, au lieu de tromper le comte, de le payer de mots comme elle le devrait sur scène, lui confesse la vérité. Je vous ai dit quelle cloche. « Nous disposions une plaisanterie, dit-elle timidement. Elle a caché Chérubin dans le cabinet. » Au moment où la porte du cabinet s'ouvre, c'est pourtant Suzanne qui en sort, parce qu'entre-temps, elle a foutu Chérubin par la fenêtre et elle s'est mise à la place. Donc Suzanne sortant, c'est ce que vous voyez sur la gravure, confond le comte et disculpe la comtesse. L'exposition du cabinet révèle faussement le réel, Suzanne au lieu de chérubin, et donne le discours scénique, l'aveu de la comtesse, pour faux, ce qu'il devrait être structurellement, mais ce qu'il n'était pas conjoncturellement. Donc Beaumarchais fait marcher le dispositif à l'envers. Beaumarchais met à distance le dispositif. Il en joue, il en fait jouer ses personnages. Je répète parce que c'est compliqué et c'est super important. Normalement, sur la scène, on raconte les bobards et quand on va ouvrir le cabinet, on va découvrir la vérité. Sauf que là, c'est exactement le contraire. La comtesse finit par confesser la vérité. Elle dit « Bah oui, j'ai mis chérubin dans le cabinet ». Et puis, quand le cabinet s'ouvre, c'est Suzanne qui en sort. Mais Suzanne, elle est là, c'est de la triche. Elle a arrangé les choses. Donc, quand l'ouverture du cabinet fait croire au comte quelque chose qui est faux. Mais il y croit parce que normalement, dans le cabinet, c'est la vérité qu'il doit y avoir. Mais ça montre bien que le jeu articulatoire fondamental, il est le jeu entre la vérité du cabinet et le mensonge de la scène. Précisément parce que là, c'est le contraire. Bon, je fais du haut équilibrisme, comme vous pouvez le voir. Suzanne, donc, arrange le cabinet comme lieu fictif de vérité et désamorce la scène comme lieu nécessairement trompeur de l'aveu. Mais l'irruption de Suzanne hors du cabinet à la scène 17 ne saurait se résumer à la substitution d'un espace à un autre, à un jeu bipolaire entre la scène et la chambre. Je cite Suzanne, donc toujours dans cette scène 17. Suzanne sort en riant. « Je le tuerai, je le tuerai !» Elle cite le comte. « Tuez-le donc, ce méchant page » dit-elle en se montrant elle-même. Surtout, ce qui est drôle, c'est qu'elle se montre à la place de Chérubin pendant que Chérubin était déguisé en Suzanne. Hein, donc là aussi, l'ambiguïté, l'ambivalence de la figure, elle a été fabriquée dans l'autre sens d'abord. Le rire de défi de Suzanne ne sauve pas seulement ponctuellement la comtesse de l'imbroglio où elle s'est laissée prendre. Il prépare l'épreuve de force de l'acte 5 entre Suzanne et Figaro d'une part, le comte d'autre part. Défier l'autorité du comte passe par l'appel au jugement public. La comtesse avait cédé à la scène 13 par peur du scandale, je cite. « Attirer vos gens et faire un scandale public d'un soupçon qui nous rendrait la fable du château ?» Non, non, il ne faut pas faire ça. Suzanne, au contraire, appelle ce scandale public de ses vœux. Je cite Suzanne. « Madame n'avait qu'à vous laisser Jean. » C'est la scène 19. L'effondrement de la scène au profit du cabinet appelle ce troisième espace que j'ai appelé l'ecclésia et que matérialise la fenêtre ouverte au fond du théâtre. Il n'y a qu'à faire venir les gens. C'est ça l'ecclésia. Ce que j'ai appelé l'ecclésia. La chambre, c'est le sanctuaire féminin, mais c'est aussi l'appel aux politiques. Le court-circuit de la représentation qui fait advenir la chambre est aussi le ressort, le principe de la révolte. En témoigne le célèbre monologue de Figaro à l'acte 5, placé dans l'ombre pour signifier que ce n'est pas la femme. Que ce n'est pas la scène. Justement, non, parce que la femme, c'est la chambre. Monologue politique, il est tout entier appuyé sur ce que c'est que la femme. Hein, je rappelle le premier mot de Figaro. « Ô femme, 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 créature faible et décevante. » Point de révolte, donc, là c'est moi qui parle, sans ce vacillement du féminin. Le troisième espace demeure, dans la littérature d'Ancien Régime, à peine esquissé. Hein, cet horizon politique. Moins qu'un espace, c'est tout juste un horizon politique. Il n'en va pas de même au XIXe siècle, je vais être beaucoup plus rapide hein, sur la fin parce que tout le monde est fatigué. Il n'en va pas de même au XIXe siècle qui connaît une transformation profonde de la représentation littéraire. En témoigne la manière dont Flaubert articule la fiction de Frédéric et de Madame Arnoux à la révolution de 1848 dans l'éducation sentimentale. Alors que se prépare l'insurrection de février, Frédéric échafaude un plan pour séduire Madame Arnoux. Frédéric avait un plan. Il espérait que grâce à la pluie ou au soleil, il pourrait la faire s'arrêter sous une porte et qu'une fois sous la porte, elle entrerait dans la maison. Le difficile était d'en découvrir une convenable. C'est là que ça commence à se dégrader. Le jeune homme a en effet arraché à Madame Arnoux la promesse d'un rendez-vous au coin de la rue Tronchet et de la rue de la Ferme. Il s'agit de là de l'attirer dans ce qu'il désigne d'abord comme « la maison », qu'une enseigne publicitaire lui renvoie ensuite comme « appartement meublé », c'est déjà plus douteux, que le garçon de l'agence lui montre enfin comme « une chambre et un cabinet avec deux sorties ». Là, c'est beaucoup plus clair. Le génie de Flaubert va, à partir de là, consister à superposer l'imagination romantique de Frédéric avec la réalité triviale et sordide de cette chambre de rendez-vous, de cette combine de vaudeville. Cette superposition s'effectue d'abord matériellement par l'aménagement de la chambre. Il se procura un morceau de fausse guipure pour remplacer l'affreux couvre-pied de coton rouge. Il choisit une paire de pantoufles en satin bleu. La crainte seule de paraître grossier le modéra dans ses emplettes. Les objets achetés saturent le lieu, en recouvrent l'ignominie de leur vernis commercial de confort, de luxe, de bien-être séduisant. Frédéric habille la chambre, il la sanctuarise. Plus dévotement que ceux qui font des reposoirs, il changea les meubles de place, drapa lui-même les rideaux, mit des bruyères sur la cheminée, des violettes sur la commode. Il aurait voulu paver la chambre tout en or. Les reposoirs, le pavage d'or imaginaire, convoquent l'espace du tabernacle comme supplément imaginaire de la chambre du rendez-vous. La chambre est drapée comme une tente. Un autre nom du tabernacle est la tente du rendez-vous. C'est exactement ce que Frédéric prépare, une tente pour son rendez-vous avec Madame Arnoux, qui n'est pas Dieu. Le lendemain, Frédéric est posté au coin de la rue Tronchet. L'insurrection se prépare, je cite, « C'était la colonne des étudiants qui arrivait. » Frédéric se défile, pendant que les autres défilent, pour ne pas manquer Madame Arnoux qui l'attendra en vain. Je cite, « 5 heures arrivèrent, 5h30, 6h, le gaz s'allumait. » Madame Arnoux n'était pas venue. Son fils Eugène est tombé malade. Elle est restée à le veiller. Toute la journée, pris par la fièvre, il a manqué étouffé. Lorsque le médecin le déclare sauvé, Madame Arnoux est saisie. Tout à coup, l'idée au sens d'image, hein, vous allez voir, l'idée de Frédéric lui apparut d'une façon nette et inexorable. C'était un avertissement de la Providence. Mais le Seigneur, dans sa miséricorde, n'avait pas voulu la punir tout à fait. D'un côté, donc, la chambre de la rue Tronchet, chambre imaginaire, est préparée comme un tabernacle. De l'autre, la chambre d'Eugène, chambre symbolique, porte l'avertissement divin. Entre les deux, la rue, où se tient Frédéric, véhicule l'insurrection, c'est-à-dire la puissance révoltante du réel. Tout le reste est organisé, tendu vers le tableau principal, le rendez-vous de Frédéric et Madame Arnoux. Ce serait là la rencontre décisive du roman, la scène clé, la scène topique de la chute, avec un grand C, de la dame, avec un grand D. Ce moment sublime d'exposition rhétorique, ce moment où pourrait se tenir le discours amoureux, se théâtraliser la déclaration de l'amant, aurait dû basculer ensuite, glisser vers la chambre plus ou moins sordide de la consommation amoureuse. C'était ça le plan de Frédéric. Mais Flaubert escamote la scène qu'il a longuement fait préparer par son personnage. Le procédé est récurrent dans le roman. La narration dispose soigneusement une scène qui n'advient pas. Le texte construit un horizon d'attente, puis déçoit le lecteur. L'escamotage de la rencontre déconstruit l'articulation narrative du récit, faisant apparaître, pour y suppléer, le dispositif de la représentation littéraire avec ses superpositions. Flaubert juxtapose deux chambres narrativement incommunicables, tandis que la pression révolutionnaire précipite le court-circuit, là aussi en dehors de toute causalité narrative. Ce n'est pas l'insurrection qui a empêché la rencontre. Elle n'a dérouté ni Frédéric, ni Madame Arnoux. L'insurrection est l'espace vague de la scène qui n'aura pas lieu. On voit ainsi se dessiner un déplacement historique des intensités dans l'économie du dispositif de la représentation littéraire. Tandis que la dénonciation du niveau rhétorique de la représentation s'accentue, frappant de suspicion, voire d'inanité le moment scénique, la chambre est amenée à jouer un rôle de plus en plus important. Théologiquement, le tabernacle renvoie en effet directement à l'interdit biblique de la représentation et au contournement de cet interdit. Alors, pour Claude Simon, ce sera juste la conclusion, parce qu'on en a tous marre. Pas de Claude Simon, hein, mais de moi. Je voudrais donc, pour conclure, évoquer la mort du capitaine de Reichsjagd comme un écho de ce Reichsjagd capitaine allemand que Montaigne évoquait dans De la tristesse. Devant Budapest, le fils de ce Reichsjagd lui est ramené mort. Je cite « Et parmi les larmes publiques, lui seul se tint sans épandre ni voix ni pleurs, debout sur ses pieds, ses yeux immobiles, le regardant fixement jusqu'à ce que l'effort de la tristesse venant à glacer ses esprits vitaux le porta en cet état roi de mort par terre. » J'ai dit ce que cette raideur, cette roideur centrale, vers quoi converge, se fige et se défait l'espace rhétorique de la représentation, me paraissait révéler du feuilletage de la représentation en un dispositif superposant la chambre, la scène et l'ecclésia. Ici, le fort intérieur de Reichsjagd, la scène de déploration et la guerre que le roi Ferdinand fit contre la veuve de Jean, roi de Hongrie. Le fort intérieur, la chambre, la scène de déploration, la scène qui n'a pas lieu, hein, et la guerre, c'est donc l'espace public. Cette roideur de Reiskiak figée dans un vide intérieur qui le mène à la mort constitue la matrice fictionnelle de la route des Flandres. Georges, le narrateur, évoque dès les premières pages la mort du capitaine de Reiskiak, officier de la cavalerie française, s'avançant à découvert pour se faire tuer dans un véritable suicide par l'ennemi allemand. Je cite « J'ai compris cela. J'ai compris tout ce qu'il cherchait et espérait depuis un moment. C'était de se faire descendre. Et pas seulement comme quand je l'ai vu rester là, planté sur son cheval, arrêté, bien exposé au beau milieu de la route, sans même se donner la peine ou faire semblant de se donner la peine de le pousser sous un pommier, se tournant légèrement sur sa selle, un peu impatienté, mais se contenant, nous montrant ce visage toujours impénétrable, dépourvu d'expression. Le visage inexpressif de Reiskiak, attendant la mort des avions allemands qui volent à basse altitude pour mieux mitrailler les cavaliers, c'est le visage sans figure d'Agamemnon, la roideur énigmatique du dirigouissé malice de Niobé, un trou dans la représentation, une impossibilité de faire scène à l'endroit et au moment même fondamental, principiel, où se joue la scène centrale de la représentation. Mais ici, cette scène n'est plus l'aboutissement de ce que le récit a disposé. Elle en constitue au contraire le point de départ, l'origine rétrospective. À partir de ce temps zéro originaire, la narration n'en finit plus d'opérer un compte à rebours qui substitue à l'enchaînement des événements une gestion de l'horizon des événements. L'histoire s'abîme dans le récit, on n'y voit plus rien sous la scène, éclatée. L'intime même se réduit à la minceur d'une énigme vaine. L'ère de la représentation s'achève en attendant l'avènement des mondes possibles, la production des virtualités. Un agencement qui n'est plus de scènes et de chambres, mais de mondes. Je pense à toute la science-fiction hollywoodienne et à ses avatars. Je pense à Avatar aussi. Et que ne séparent plus cloisons, murs, écrans et portes. Il n'y a pas de porte dans Avatar. Mais failles, diaphragmes, déchirures. Je vous renvoie à Star Trek, Sliders, Nick Cutter. Enfin, tout ce que vous devez regarder à la télévision pour bien préparer le concours. Une ère, donc, qui commence. Une ère qui n'est plus physique, mais métaphysique, qui n'est plus aristotélicienne, mais quantique. Je vous remercie.
Moi, j'ai une ou deux questions qui me travaille, l'une peut-être à laquelle tu peux répondre, qui avait trait au premier texte que tu as évoqué, c'est-à-dire au texte de Montaigne, et qui insistait au fond sur la représentation absente du centre des essais, du texte de la Boétie qui aurait dû figurer, qui ne figure pas. Et au fond, je me demandais si dans les trois espaces que tu avais définis, ce texte référait à l'Ecclésia pour toi, ou est-ce qu'il référait à l'intime, puisqu'au fond, quand il ne le publie pas et qu'il dit qu'au fond c'est parce que ce texte a été trahi, on peut penser que c'est l'espace politique qui l'a rattrapé, mais au départ pour lui c'était un texte qui référait à la scène intime, il me semble.
Absolument, mais c'est ça qui est toujours très difficile à analyser, c'est que c'est justement comme quand on est dans, c'est plus compliqué la littérature que Gorgias. C'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire que c'est une sorte de méta-Gorgias, la littérature. Quand vous arrivez vers la zone centrale, ce fameux tableau que Montaigne n'arrive pas à remplir. Alors il dit, moi je peux pas faire ce morceau, ce chef-d'œuvre que le peintre a réservé. Il a d'abord fait les grotesques, il a réservé un vide pour peindre la belle fresque au milieu. Bon ben moi, mes essais, c'est les grotesques qui sont tout autour. Et puis au moment d'arriver au tableau principal, je peux pas. Alors qu'est-ce que je fais? Je pourrais mettre le discours de la servitude volontaire de mon ami La Boétie. Et effectivement, il y a là un geste intime. Il y a un geste intime parce que ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que l'intime, c'est le fondement. C'est-à-dire, le geste littéraire, il part de cet espace principiel de la chambre, et donc c'est de là que ça part, de l'intime. C'est là que ça part, mais quand on arrive à cet espace central, on ouvre l'horizon politique. Et c'est pour ça que ça merde. Enfin, c'est pour ça que ça ne marche pas. Hein. C'est-à-dire que l'espace central, c'est l'espace du court-circuit. Donc, vous partez de l'intime. Mais comme vous partez de l'intime et vous allez vers une scène, parce que ce qu'on vous demande, c'est une scène, et puis quand vous partez de l'intime pour aller vers une scène, et puis finalement, c'est l'horizon politique qui vous rattrape. Il a été rattrapé par cet horizon politique parce que ce texte de la Boétie était un brûlot dès le départ, hein, parce que ensuite, ce texte de la Boétie est publié par les protestants qui l'utilisent pour accuser le roi de tyrannie, et Montaigne n'ira jamais jusque-là. Donc là, il y a quelque chose qui dépasse la littérature. Et la littérature, elle est toujours dans ces jeux d'appréciation de niveau. Hein, et voilà, la littérature, c'est le cul entre deux chaises, pour dire les choses plus trivialement. Voilà ce que j'ai voulu dire. N'hésitez pas à poser des questions. Même des questions idiotes, c'est toujours les plus intelligentes.
Je suis restée un petit peu sur ma faim, Claude Simon quand même. Est-ce que vous pourriez, non pas forcément développer, mais rappeler les différentes problématiques à propos de ce texte qui est quand même assez difficile et où notamment la question de la scène n'apparaît pas immédiatement en fait.
Ah mais non, mais la question de la scène, elle peut pas apparaître immédiatement parce que il y a plus de scène chez Claude Simon. C'est ce que j'ai essayé de suggérer, mais ça ferait l'objet d'une conférence en soi. C'est-à-dire que il y en a plus qu'une, c'est celle de la mort du capitaine de Reichshack, qui se fragmente, qui se dissémine complètement, et à partir de laquelle toutes les artefacts de scène vont s'accrocher. Mais là, j'y suis allé très rapidement. J'ai pas eu le temps de développer ce que je voulais dire. Je pense que le nouveau roman, c'est pensé comme une fin, comme la fin de la littérature. Et on le voit. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, en lisant Houellebecq, si j'avais eu le temps, je vous aurais parlé de la carte et du territoire parce que c'était absolument dans mon sujet, parce que ce ne sont que des histoires de tableaux. Avec des effets de décentrement, hein, le dernier roman magnifique de Houellebecq. Mais parce qu'on n'est plus dans une ère de la représentation. Le nouveau roman, c'est la fin de l'ère de la représentation. C'est ça un peu que j'ai essayé de suggérer. Donc c'est la fin de l'ère de la représentation. Donc on voit déjà comment chez Flaubert, vous avez cette façon de préparer, annoncer des scènes que Flaubert ne fait pas, il le fait exprès. Et puis là maintenant, bon, en fait, cette scène, ça devient une seule scène qui se défait complètement, dans laquelle tombe toute la narration. Toute la narration s'effondre dedans. C'est pour ça que j'ai parlé d'horizon des événements, parce que je pense que cette littérature-là, elle est très profondément marquée par les transformations de la physique contemporaine. Hein, la physique contemporaine, qui est une physique des trous noirs, une physique quantique des effondrements, de penser ce que c'est qu'un effondrement, qu'est-ce qui se passe quand il y a plus de géométrie, hein, parce que c'est ça le et ce que pour moi ce que représente la route des Flandres, c'est vraiment la mise en scène de cet effondrement qui est à partir de la figure de Reichshack. Mais on est quand même encore dans l'ère de la représentation, parce que cette figure de Reichshack qui tombe de son cheval, eh ben c'est encore dans la grande tradition qui remonte à Montaigne et avant Montaigne à tous les exemplars antiques, c'est le dirigouis et malis, hein, donc qui est encore là, et puis mais c'est la fin, voilà.
Et est-ce que vous pourrez juste un mot sur l'articulation du concept de représentation et de scène quand même, parce que là vous aviez des présupposés qui étaient les vôtres, mais oui. Pour qu'on ait un panorama total de votre démarche, c'est vrai que j'ai pas parfaitement saisi le passage, oui. Et peut-être que bien des élèves non plus.
Oui. Alors bon, c'est vrai que j'ai un usage un peu particulier du mot scène, parce que quand je parle de scène, je veux parler de dispositif scénique. Et donc le dispositif scénique, c'est quelque chose d'assez particulier qui déborde l'usage ordinaire du mot scène. C'est vrai. Je vais pas rentrer dans le détail de ça. Je vais me centrer sur ce qui était mon propos aujourd'hui. Pour moi, ce que c'est que la scène, c'est le niveau intermédiaire de la représentation littéraire. C'est ça ce que j'ai essayé d'expliquer. Hein, bon, c'est vrai que là, il y a le présupposé de ce que j'ai écrit avant, mais je suis en train d'essayer de construire autre chose après. Bon, c'est pardon, hein, mais vous êtes mon laboratoire. Et donc, rassurez-vous, il n'y a pas de mort, toutes les souris sortent vivantes. Alors, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où je considère que il y a dans la littérature un niveau qui est un niveau rhétorique, c'est à ce niveau-là que j'identifie ce que j'ai appelé la scène. Pourquoi ? Parce que j'utilise le terme de scène au sens que, par exemple, chez Beaumarchais, je trouve que c'est lumineux, au sens que Beaumarchais, le théâtre du 18e, l'utilise. La scène, c'est le lieu où on fait les grandes tirades. Qu'est-ce que c'est les grandes tirades ? C'est ce contre quoi, par exemple, toute l'esthétique de Diderot dramaturge, va se révolter. Les tirades, c'est tout complètement fabriqué, c'est des recettes, et donc ça dit jamais l'authenticité des sentiments. Hein. La scène, elle est ce niveau-là, dans la représentation littéraire générale. Alors le problème, c'est de savoir ensuite comment ce niveau-là, il va s'agencer, s'accommoder avec ce qui paraît être le fondement de la littérature, hein, c'est-à-dire cette recherche de l'intime. Je triche un peu parce que tout dépend de comment on délimite la littérature. C'est à soi un problème, à soi tout seul. Donc, j'ai supposé, pour la commodité, je dirais, du programme et puis de ce qui me semble être les présupposés de la question du concours, que quand on dit représentation littéraire, on sous-entend que la littérature commence avec Montaigne. Voilà. C'est pas évident que la littérature commence avec Montaigne. Hein. Mais la littérature, en tant que la littérature, c'est de la représentation, oui. Là, je pense qu'on peut défendre l'idée que ça commence avec Montaigne. Et donc, la notion de scène, je l'introduis donc dans cet espace de Montaigne à Claude Simon, où avec Montaigne, quelque chose commence, où il y a un fondement intime pour l'écriture littéraire, et cette chose-là, elle s'achève avec Claude Simon, où le moi se défait, et comme par hasard, quand le moi se défait, c'est la scène qui se défait. Voilà. Hein. Donc, ce que j'entends par scène, c'est ce niveau rhétorique intermédiaire. C'est pour ça que je suis parti du tableau de Last Man, hein, parce qu'on voit très bien dans le tableau où elle est, la scène. Elle n'est pas au premier plan, comme on pourrait le croire. La scène, c'est Hippocrate. Voilà, c'est ça la scène. C'est Hippocrate. C'est quelque chose qui est pris entre les spectateurs qui sont derrière et Démocrite qui s'en fout devant. Voilà. Hein, c'est cette zone intermédiaire, assez difficile à comprendre. Et donc, vous voyez qu'ici, je n'utilise pas la scène au sens de découpage d'une scène dans le déroulement du récit, comme j'ai pu le faire, par exemple, dans la scène de roman, hein, dans mon livre La scène de roman. Je l'utilise dans un sens plus large, hein, comme un niveau de présentation littéraire. Je ne sais pas si j'ai été clair. Voilà.
Dans ce que tu dis, il y a, moi, la chose qui me frappe le plus dans Le mariage de Figaro, outre les scènes que tu as analysées et l'ouverture du cabinet, c'est qu'en fait, les amours de la comtesse et de Chérubin ne sont pas représentées. Elles ne sont pas mises en scène, précisément. Non, et en fait, on comprend par des histoires de rubans, des épingles, oui, voilà, assez compliquées, ouais. Et en fait, on ne voit les résultats que dans La mère coupable.
Absolument, donc, ça n'entre pas en scène. Mais on le voit comme résultat dans La mère coupable, mais dans La mère coupable, alors là, la chambre se referme complètement. Là, il n'y a plus que la chambre, c'est-à-dire on voit rien du tout dans La mère coupable. Et donc, juste, non seulement dans Le mariage de Figaro, il n'y a jamais de représentation scénique ou d'expression rhétorique scénique, ou d'expression discursive de l'amour de la comtesse pour Chérubin. Mais Chérubin, lui, il fait ses déclarations, mais c'est la comtesse, hein, il y a un silence. Mais, au fond, l'événement de la relation amoureuse, il se situe entre Le mariage de Figaro et La mère coupable. Donc, il l'a même mis entre deux pièces. Oui, absolument.